Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, je reçois un phénomène. C'est ainsi que vous qualifiez le Monde Magazine, le phénomène Boucheron. Et si on les croit, vous séduisez le grand public autant que vous exaspérez le philosophe Alain Finkielkraut ou le polémiste Éric Zemmour. Vous êtes professeur au Collège de France. Vos conférences font salle pleine. Vos livres d'histoire se vendent comme des best-sellers. Et sans raconter n'importe quoi, vous avez été reçu premier à l'agrégation d'histoire. Et les auditeurs de France Inter, vous avez entendu tout l'été dernier avec votre feuilleton quotidien Un été avec Machiavel. Le recueil de ces textes est désormais disponible aux éditions des Équateurs, coéditées par France Inter. Je vous cite, « On a voulu se débarrasser de Machiavel en inventant le machiavélisme. » Expliquez-nous, parce que moi je pensais que les deux étaient totalement imbriqués.
Mais non, le machiavélisme, c'est une manière effectivement de se débarrasser de Machiavel en le caricaturant. Et vous savez, tous les mots qui se terminent en « isme » commencent mal, si j'ose dire.
Attendez, le marxisme, c'est quand même la doctrine de Marx.
Oui, mais ça devient aussi assez rapidement une manière de ne pas parler de Marx. Et d'ailleurs, pour parler de Marx lui-même, on va dire marxien.
Alors, quand on veut résumer Machiavel à un élève de troisième, pour lui dire qu'il est grossièrement, on lui dit, tu vois, Machiavel, c'est « la fin justifie les moyens ». Or, j'apprends en vous lisant qu'il n'a jamais écrit cette phrase.
Non seulement il l'a jamais écrit, mais il n'a même pas pu y penser. Pourquoi ? Eh ben, justement parce que, pour lui, la fin ne peut pas justifier les moyens, parce que quand vous agissez politiquement, vous ne connaissez pas la fin.
Donnez l'exemple de Romulus et Rémus, qui auraient, dit la légende, fondé Rome. Et un frère tue l'autre.
Oui, Romulus tue Rémus, et donc ce sont les deux fondateurs de Rome qui sont en même temps fratricides. C'est une histoire terrible, il vaudrait mieux ne pas s'en souvenir. D'ailleurs, les chrétiens préfèrent ne pas s'en souvenir, mais Machiavel, lui, veut regarder en face la violence de la politique. C'est-à-dire le fait que quand on fonde quelque chose, on n'est pas dans son droit, et que c'est la violence qui crée le droit. Alors, d'une certaine manière, il fonde une ville, il fonde un empire. Donc Romulus a raison de tuer son frère, mais il a raison si on sait que ça a marché. Or, au moment où il le fait, il ne connaît pas la fin. Donc les moyens ne peuvent pas l'excuser. Et c'est pour cela que pour Machiavel, la politique, c'est toujours une philosophie de la nécessité qui vous met en demeure de ne pas savoir les conséquences de vos actes.
J'ai appris aussi grâce à vous que le livre qu'on appelle Le Prince ne s'appelle pas Le Prince à l'origine, mais De Principatibus. C'est du latin, c'est comme ça que je prononçais moi.
Il y a très longtemps, au 15e siècle, De Principatibus, oui, voilà.
C'est du latin, ça signifie en français des principautés. Pourquoi le titre a-t-il changé ?
Eh bien parce que on a fait de ce livre, qui était un livre très particulier, qui ne s'adressait qu'à des princes singuliers du Moyen-Âge, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, qui étaient des créateurs d'État, et dont Machiavel voulait, il voulait apprendre à ceux qui avaient conquis l'État à le conserver.
Chapitre 12, je vous donne le titre, « Comment lire le prince ?» C'est une très bonne question. Je tourne la page et je lis ceci. « Au fond, nous ne savons pas vraiment comment le lire. » Il ne faut pas faire ce titre, comment lire le prince, et vous ne nous donnez pas la réponse.
Mais parce que vous savez, les textes anciens ne nous viennent pas avec leur mode d'emploi. On a une question toute simple et qui est très saillante chez notamment les auteurs romains. Est-ce qu'ils ne se moqueraient pas un peu de nous ? Machiavel, c'est un blagueur. Machiavel, lorsqu'il décrit des choses énormes, peut-être que d'une certaine manière, il parodie quelque chose que nous ne connaissons pas. Et donc, rien n'est plus difficile pour un historien de saisir le moment où son auteur blague.
Vous avez rédigé les textes de ce livre il y a un an,
oui.
Puisque ça passait sur France Inter l'été dernier. Et vous écrivez ceci, page 35. Le 19 juin 1498, trois semaines après l'exécution de Savonarole, le Grand Conseil confirme Machiavel dans ses nouvelles fonctions. Il s'entoure d'une petite équipe qui le suivra jusqu'en 1512. Aucun n'a 30 ans, ils sont juristes et fins lettrés, ils sont surtout affamés de travail, de pouvoir et d'amitié. Et on a l'impression de voir à l'œuvre Emmanuel Macron et sa jeune équipe d'En Marche.
Et on a l'impression, en effet, et quand j'ai relu cette page, ça m'a un peu surpris. Ça prouve au fond qu'avec Machiavel, on a toujours intérêt à le lire au futur. Évidemment, c'est un auteur ancien, il parlait de 1498, c'est il y a bien longtemps. Et en même temps, c'est ça qui est passionnant chez lui, et c'est pour cela que tant de gens le lisent, c'est qu'ils ont l'impression que ce dont il parle n'a pas eu lieu, mais aura lieu. Et là, pour le coup, un an plus tard, c'est tout à fait saisissant.
Patrick Boucheron avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Patrick Boucheron avec nous qui vient de publier Un été avec Machiavel, ce sont les textes qui font suite à sa chronique d'été de France Inter, et ça sort aux éditions Équateur, dans la collection Parallèle, avec France Inter en coédition. Il y a une énorme polémique vous concernant au printemps dernier, avec la sortie de votre livre Histoire mondiale de la France. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une histoire mondiale ? Moi, benoîtement, je pensais que l'histoire de la France était française, monsieur.
Mais elle est aussi tout ce que, évidemment, le monde lui a apporté et tout ce qu'elle a apporté au monde. Donc, histoire mondiale de la France, ça voulait dire juste, simplement, une histoire de la France qui s'explique par le monde. Et on avait voulu, à partir de cette prise de position, faire une histoire par date, parce que c'est à la fois très sérieux, c'est une histoire écrite par des universitaires, mais qui tentait de s'adresser, en fait, à un large public, par la forme la plus familière, au fond, d'histoire, c'est-à-dire la chronologie.
800 pages, 146 dates qui démarrent à la Grotte Chauvet. Les 122 auteurs étaient totalement libres de parole ou est-ce que vous avez supervisé tous les textes?
Ah non. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme une expérience. À quoi pensent les historiennes et les historiens aujourd'hui?
Alors c'est toujours un succès de librairie. 80 000 exemplaires vendus, si mes chiffres sont bons, alors qu'un ouvrage d'histoire dépasse rarement les 500 exemplaires. Éloge dans la presse, mais également polémique. Le philosophe Alain Finkielkraut vous qualifie de fossoyeur du grand héritage français. Éric Zemmour vous reproche de dissoudre la France en 800 pages. L'intouchable Pierre Nora vous reproche de servir une idéologie et de vous prendre pour le Bourdieu historien du Collège de France. Comment vous-même, humainement, avez-vous encaissé cette polémique?
Oh, mais très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Non, il n'y a aucune difficulté.
Oh, bah dis donc, vous avez dit au Monde Magazine, il y a 3 semaines, les polémiques m'ont blessé.
Ah oui, mais d'accord, mais enfin, sauf qu'on est... Écoutez, franchement, il y a pire dans la vie, donc je vais pas...
Ah non, moi je m'en fiche, mais vous me dites
ondes.
Très bien, et 3 semaines avant, vous dites blessé.
Non, mais c'est normal. Non, mais alors, après coup, je vous dis, au fond, tout est intéressant dans cette histoire, c'est une aventure collective, et collectivement, je dirais que ce livre a sans doute touché un nerf, et des gens ont réagi, c'est leur problème, finalement, plus tard, ça documentera un certain état de l'opinion française à un moment donné, à la veille d'échéances électorales majeures. Voilà.
Sur certains points, on peut comprendre l'étonnement des gens. Par exemple, pour l'année 1907, il y a un long article consacré à la visite de Picasso au musée d'ethnographie Trocadéro, mais il n'y a rien pour 1905, pas d'entrée. 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est quand même une date mondialement très importante. Pourquoi cette impasse?
Mais pourquoi faudrait-il lire un livre par rapport à ce qu'il ne dit pas? Au fond, c'est un livre qui ne prétend pas en remplacer d'autres. Vous connaissez la loi de séparation de l'Église et de l'État. Nous, ce qu'on cherchait, c'est au fond à surprendre, c'est à proposer des pas de côté, une sorte de manière de voir autrement notre histoire. C'est un livre qui propose des parcours dans l'histoire de France avec des partis pris. Et on choisit toujours son entrée.
Vous définissez vous-même, Patrick Boucheron, comme un historien engagé et vous dites cette phrase qui m'a laissé perplexe. Un historien engagé est bien le contraire d'un historien militant. Alors en général, moi je pensais que les militants étaient engagés et que les engagés étaient militants. Éclairez-nous.
Eh bien, évidemment que l'engagement dans le militantisme est un engagement admirable. C'est pas le mien. Voilà, c'est-à-dire que je ne fais pas une histoire partisane et militante, je fais une histoire engagée au sens où elle s'adresse à nos vies et que s'adressant à nos vies, elle pose aussi un diagnostic sur le présent. Voilà, c'est-à-dire que c'est une façon de ramener la politique à la fois à son ambition intellectuelle et aussi à, je dirais, son émotion, voilà. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire adressée, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'adresse à vous. Et c'est un engagement dans le corps même de celui qui parle.
Patrick Boucheron et son corps avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Patrick Boucheron avec nous, historien, professeur au Collège de France, qui publie actuellement Un été avec Machiavel. C'est vrai que vous avez choisi de vous consacrer à l'histoire médiévale, non pas parce que le Moyen-Âge vous passionnait, mais parce que vous aimiez la manière dont Georges Duby ou Jacques Le Goff en parlaient.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi. Et d'ailleurs, quand parle d'histoire...
Et s'ils avaient parlé des Vikings?
Ah ben, si j'avais parlé des Vikings, je me serais passionné pour les Vikings. D'ailleurs, pour moi, au fond, parler d'histoire, c'est aussi parler des livres d'histoire que j'ai aimés. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime les livres, j'aime la cause des livres, je m'enflamme souvent pour des livres. Et ce qui me plaît souvent, c'est le regard qui se porte sur les choses davantage que les choses. D'ailleurs, les gens ne s'intéressent pas aux Égyptiens ou aux pharaons, ils s'intéressent aux égyptologues, c'est-à-dire à la démarche. Voilà, c'est la démarche qui me plaît.
C'est vrai que quand vous étiez adolescent, vous vouliez devenir non pas historien, mais comique comme Coluche.
C'est vrai. Bah vous aussi, non?
Ah non, pas du tout.
Oh bah si.
Moi, je voulais être pilote de Formule 1.
Ah oui, bah ça n'a pas marché. Alors.
Vous non plus. Ah vous bah avez oui. écrit des textes, vous écriviez des textes comiques, vous avez essayé de faire rigoler des...
Oui, ah ouais bah oui.
Ah bah je savais pas moi.
Bah oui, mais
vous faisiez quoi?
La radio, c'était d'ailleurs vraiment ma première passion. C'était la radio libre à l'époque.
Ouais. Hein. Voilà. Et vous faisiez quoi?
Des blagues.
Ah, et vous faisiez quoi comme genre de blagues?
Je ne m'en souviens plus, je préfère ne plus m'en souvenir.
Je l'apprends grâce à vous. Dans votre livre, c'est page 17, à la fin de sa vie, Machiavel se présentait ainsi, historien, auteur comique et tragique.
Oui.
Et vous dites qu'il écrivait des pièces qui étaient très très drôles.
Oui.
Au point qu'il a fallu interrompre des pièces tellement les gens se gondolaient.
La Mandragore, notamment, c'est une pièce effectivement à la fois tragique et comique, il le dit dans la manière dont il se présente. Il était graveleux.
Ah bon ?
Ah oui, c'est un blagueur ou c'est un provocateur. Vous parliez de Carbone 14, il y a un côté un peu Charlie Hebdo, mais à la bonne époque. Hein, voilà, c'est-à-dire que évidemment, c'est une manière de grossir le trait, d'user au fond de toutes les ressources de l'intelligence, y compris la dérision, la provocation, la satire, la parodie, voilà. C'est ça aussi Machiavel.
Et ça fait plus rire comme avant, j'imagine.
Eh ben, on sait pas trop si on doit rire ou pas. Et c'est ça aussi qui est difficile avec les périodes anciennes, c'est que souvent on se trompe. On rit là où on devrait pas et on ne rit pas là où c'est drôle.
Est-il vrai que vous préparez depuis 10 ans un livre sur Saint Ambroise, évêque de Milan au 4e siècle?
C'est vrai, sauf qu'il était évêque de Milan au 5e siècle.
Bon, vous direz ça aux gens du Monde Magazine parce qu'ils se sont trompés. C'est des livres pour qui?
C'est des livres, écoutez, je pense que là, cette année...
Parce que c'est pas avec ça que vous allez vous acheter une maison de campagne.
Non, mais j'ai pas envie d'une maison de campagne.
Vous êtes fan de foot?
Oui.
Beaucoup?
Un peu.
Je m'attendais pas à ça, parce que j'ai trouvé un papier de vous, une pleine page dans Libé, en octobre 2008, un article sur un reportage sur l'équipe de France de football
qui préparait
à Clairefontaine, merci, un match international contre la Roumanie. Déjà, on s'en foutait un tout petit peu, mais en plus je me suis dit, mais que vient faire Patrick Boucheron à Clairefontaine? Je m'en réjouis.
C'était le Libé des historiens, c'était la première fois
qu'il
y a une réunion de rédaction et on dit qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai dit ce que je veux faire, c'est approcher Franck Ribéry.
Incroyable. Et vous racontez comment il parle, comment il se...
Mais ouais, parce que c'est aussi une scène machiavélienne. C'est un théâtre du pouvoir aussi, Clairefontaine.
Vous avez totalement raison. Et vous citez un détail auquel j'avais jamais fait attention. C'est comble de l'antisacrilège. Il y a des journalistes qui lui disent vous.
Oui. Et ça, il faut pas.
On dit tu au footballeur.
Voilà. Et il le prend très mal parce que, évidemment, il y a des codes. Et si on ne maîtrise pas ces codes, on voit très bien que, par exemple, à Clairefontaine, il y a les journalistes de l'équipe et il y a les autres. Enfin, il y a tout un jeu comme ça d'influence. Et moi, ça m'avait fasciné. Je lisais aussi, les articles de Grégory Schneider dans Libé. Je voulais aussi, qui a une capacité, justement, de toujours tourner le regard. Là encore, c'est machiavélien. Plutôt que de regarder Ribéry, voir comment les autres le regardent, comment on lui parle, comment il répond, comment tout cela crée les conditions, effectivement, d'une scène qui est politique. Parce que tout est politique.
Est-il vrai que vous adorez concocter des playlists pour faire danser vos amis?
C'est vrai.
Alors c'est quoi en ce moment vos tubes?
Oh putain.
On terminera sur cette interjection. Je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que quelqu'un prononce ce mot.
Ça, je n'y crois pas.
Contraire. Merci beaucoup, Patrick Boucheron, d'être venu nous voir.
Merci à vous.